Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, depuis le 18 novembre, vous le savez, le Québec est en deuil après le décès de Jean Lapointe. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris son décès et on a appris aussi avec beaucoup de tristesse qu'il n'y aurait pas de funérailles nationales. Aujourd'hui, je parle avec Jean-Marie Lapointe, mais d'abord, je vais commencer par lui demander comment il va. Jean-Marie, comment vas-tu?
Oh mon Dieu, souvent j'ai le mouton dans la gorge quand les gens commencent à me demander comment je vais, parce que c'est comme si je prenais conscience que, OK, là on va parler de papa, papa n'est plus là, et c'est comme un arrêt, là. Là je comprends, parce qu'on est beaucoup dans l'action, à préparer les funérailles et tout ça, puis on dirait qu'il y a encore un peu l'aspect irréel, sauf que on est vite ramené à la réalité, parce que il y a, quand je vois des photos de papa circuler dans les médias, il y a une date de naissance, puis il y a une date de mort. Là, je vois qu'il y a vraiment une fin. Alors, comment je vais? Je vais quand même bien. Je vis mes émotions une vague à la fois. Il y a quand même beaucoup de support. Il y a une joie d'être en paix. C'est précieux, ça, d'être en paix avec l'absence d'une personne, parce que on a tout dit, on a tout fait. On est... j'étais tout à fait en paix avec mon père quand il est parti. Mais il y a ça, il y a des moments de vide, il y a des moments de tristesse, mais il y a des moments de grande gratitude d'être autant supporté, encadré. J'ai tellement de beaux messages. Là, je parle aux jeux, là, mais mes sœurs, moi, Mercedes, ta conjointe, tellement de beaux messages que tu te dis, mon Dieu, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir pleurer en gang. Combien de gens pleurent en silence tout seul dans leur salon? Nous, c'est pas notre cas. T'sais, alors, pour le moment, ça se passe quand même bien.
Et j'imagine, oui, c'est sûr que s'il y a tout cet appui-là, en même temps, tu comparais avec quelqu'un qui pleure tout seul dans son salon, ça aide, mais ça n'efface pas la douleur. Elle est aussi grande que notre papa soit hyper connu ou qu'il soit monsieur inconnu. La douleur est la même, bien sûr.
Oui, oui, Sophie, la douleur est la même, mais en même temps, imagine tu tombes en panne, tu es dans ta voiture, mais que tu as 8, 9, 10 personnes qui la poussent.
Quelle belle image.
Plus léger. C'est plus léger à la gang, t'sais, on est toute la gang. Tu sais, je suis mal pris, je suis tout seul dans ma voiture, mais là, attends, hey, t'as mis, on va t'aider. Donc, il y a un peu de ça, c'est que je me sens hyper accompagné et la lourdeur de la perte, du vide, on la supporte à la gang. C'est une grande différence.
Oui, je suis entièrement d'accord et j'adore ton image, en effet, de... Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est une panne de cœur. Ton cœur a arrêté de battre le 18 novembre. Puis là, ben, y a plein de gens qui t'aident à leur partir, à repartir.
Ah, c'est bien dit. Hein? Toi aussi, hein, une image en amène une belle.
Bon.
Et c'est vrai, il y a plein de gens qui me donnent plein de petits électrochocs de repartir mon cœur, parce que il arrête de battre, étant donné qu'on a quelqu'un qui a aussi arrêté de battre le sien. Mais effectivement, je me sens privilégié, je me sens supporté. Puis on dirait que on est tellement dans l'organisation aussi, hein, de la chapelle ardente, des funérailles, que on est aussi habité. Je me sens habité par l'âme et l'esprit de mon père qui, à chaque fois qu'on prend une décision à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, dit qu'est-ce que papa il voudrait dans le fond? Parce qu'on avait des grandes lignes. Papa était un homme croyant, religieux, donc c'est sûr que ça se passe à l'église, mais au-delà de ça, ben, on se pose la question, qu'est-ce que papa aimerait? Quelle sorte de texte qu'il aimerait qu'on lise? Ben, ça nous aide à prendre des décisions.
Je comprends tout à fait, puis avec ton empathie et celle de ton entourage, ça permet de prendre en effet les bonnes décisions. On va en parler un petit peu plus tard des funérailles de la chapelle ardente, mais d'abord, je dois quand même mentionner qu'aujourd'hui, on est le 6 décembre, et ça aurait été son anniversaire.
87. Papa aurait eu 87 aujourd'hui, puis Écoute, je te dirais que ça faisait quelques années que papa avait des soucis de santé, puis on se disait à chaque fois, est-ce que c'est sa dernière fête? C'est-tu son dernier anniversaire avec nous? Tu sais? C'est cette conscience-là de, est-ce que c'est notre dernière fête des pères? Est-ce que c'est mon dernier anniversaire avec mon père? Bien là, c'est confirmé. Là. Papa ne s'est pas rendu à son 87e, donc ça c'est particulier. Là. Je te dis que c'est particulier de fêter sans lui, mais... Encore une fois, il y a des beaux bonnes fêtes à papa qui lui sont transmises. Puis il y a, c'est pas pour rien. On se parle aujourd'hui. Il y a des belles synchronicités, donc ça fait un beau clin d'œil pour papa.
En effet. Et puis tu parlais des dernières fois, donc la dernière fête, le dernier ceci. Ben là, on commence le cycle des premières. Le premier anniversaire sans lui, le premier Noël sans lui, la première, etc., etc. Donc, ben on te souhaite tout plein de courage pour à toi et à tes proches et à ta famille pour passer à travers ces moments difficiles là. Donc revenons à cette fameuse question des funérailles. Donc on le sait, on l'a appris récemment. Pas de funérailles nationales. Je veux juste qu'on revienne quand même sur le moment où toi, tu as appris cette nouvelle-là. Ça a été quoi? Ça a été la colère, la déception qui l'ont emporté?
Non, déception, oui, pas de colère, mais une incompréhension, comme beaucoup de gens, même des politiciens ne comprenaient pas. Puis on est plusieurs à ne pas comprendre les critères qui déterminent si oui ou non une personne peut avoir des funérailles nationales. C'est comme... Là, c'est là, le gros lâcher-prise hein, qu'on a tous, c'est tout appliqué dans la famille. Bon, ben il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Bon, ben qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors, comme le gouvernement provincial, la Ville de Montréal, les jeunes nous ont dit, on va vous aider. Alors, tu sais, j'avais hâte de voir concrètement, ben oui, on a de l'aide, concrètement, de la part du gouvernement, de la part de Ville de Montréal. Donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est que déjà, là, il va y avoir un drapeau en berne. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un drapeau en berne. On est supposé avoir une rencontre privilégiée avec le premier ministre éventuellement, mais tu sais, ça c'est à déterminer. Mais pour ce qui est des funérailles, ben c'est sûr qu'il va y avoir de la sécurité, c'est sûr qu'il va y avoir un protocole, c'est sûr qu'il va y avoir des dignitaires, des politiciens. Donc, qui dit ces personnes-là qui se déplacent, ben ça va nous demander de l'aide, hein. Ça va nous demander une certaine forme d'encadrement. Et puis, ben évidemment, à la dernière minute, on a su qu'il n'y en aurait pas de funérailles nationales et on se disait, ben là, ça nous prend une chapelle ardente parce que qui dit funérailles nationales aurait dit aussi la possibilité au public de venir assister aux funérailles.
Voilà.
Et la décision, hein, c'est important ça parce que la décision avait été prise, on voulait garder ça très intime au niveau du salon, des visites et de l'église. Mais ça, c'est parfait, c'est correct et ça nous revient de vouloir le faire. Cependant, papa est un homme aimé par des centaines de milliers de Québécois, Québécoises. Mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il n'y a pas de funérailles nationales. Il n'y avait pas de chapelle ardente parce que on n'avait pas accès à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville à Montréal est en rénovation. On ne pouvait pas le faire à l'hôtel de ville. Après ça, on avait pensé à la maison Jean Lapointe. On a une immense salle de réunion pour les fraternités anonymes. Mais le problème, sécurité, c'est important. Mais il y a juste une entrée et une sortie, puis c'est la même porte. On ne peut pas le faire.
Ben non.
C'est trop dangereux.
Je comprends.
Dit, dans les scénarios catastrophes, ça arrive pas juste dans les films. On dit non, on peut pas le faire là. Donc, il était un peu tard. Alors, à un moment donné, j'ai proposé à ma famille, laissez-moi vérifier quelque chose auprès de l'église, parce qu'on a quand même un petit budget serré pour les funérailles de papa. Et finalement, l'église où va avoir lieu les funérailles, ils nous ont dit, ben non, ben le jeudi soir, l'église est disponible. La voulez-vous? Ben, certainement. Alors, on a sauté là-dessus et on a arrangé une plage horaire de 17h30 à 22h le 15 décembre, qui est le jeudi soir, à l'église Saint-Viateur. Donc, on va aménager une belle petite chapelle ardente. C'est très simple, très sobre, mais c'est surtout, peu importe, là, il y a une photo. Tu sais, il y aurait une photo puis les cendres de papa, c'est tout ce que ça prend. Pour que les gens puissent se recueillir, venir nous saluer, les membres de famille qui sont disponibles. Puis moi, j'y tenais vraiment pour... Tu sais, j'ai 57 ans, Sophie, depuis que je suis tout petit, que je vois l'impact que papa a dans la vie de plein de gens, y compris l'impact qu'il y a eu auprès des gens qui ont des problèmes de dépendance, qui sont allés à la maison Jean Lapointe. C'était aussi un ex-sénateur. Je me dis, ben pour tout ça, tout l'ensemble de l'œuvre, ça prenait de quoi? Puis on a le fait. Donc, finalement, c'est confirmé. Le jeudi soir, le 15 décembre, on va avoir une belle chapelle ardente.
Et parle-moi aussi de la cérémonie funéraire privée. Il va y avoir Marie-Hélène Thibert et Benoît Brière. Pourquoi ces deux personnes-là?
Ben, Benoît Brière était un acteur adoré de papa et je pense que c'était mutuel. Et Benoît Brière a signé la préface dans le livre de papa, son autobiographie. Donc, on trouvait sympathique qu'il vienne lire un petit texte. Je ne dirais pas le contenu parce que c'est une belle surprise.
Ben oui.
Marie-Hélène Thibert, papa l'adorait et elle avait déjà chanté Les Fleurs Malades, qui est un petit peu l'hymne national du Téléthon Jean Lapointe. Donc, elle va venir nous chanter Les Fleurs Malades. Donc, c'est clair que papa, c'est un grand musicien, c'est un mélomane. Mmh. Donc, il va avoir des performances musicales en toute sobriété. Il va avoir des textes lus. Il va avoir de la visite de certains dignitaires. On va avoir la liste officielle sous peu. Mais, puis imagine, l'église Saint-Viateur, je pense qu'elle contient, quoi, 700-800 places, 800-900, je sais pas. J'imagine qu'on n'aura pas de misère à la remplir parce que on a tout un réseau, là, mes sœurs et moi, Mercedes, la conjointe de papa, et aussi l'ampleur de son œuvre.
Absolument.
Il y a tellement de gens. Alors, à défaut d'ouvrir l'église au grand public, parce que c'est sûr que ça serait rempli trop vite, puis il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde. C'est pour ça que la chapelle ardente était nécessaire. Mais il va y avoir une belle cérémonie. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotion, beaucoup de simplicité. Et comme dit Serge Marquis, beaucoup d'humanitude à l'image de papa.
Ah, c'est drôle que tu utilises cette expression-là, parce que quand tu es passé à l'émission Le Monde à l'envers et que Stéphane Bureau t'a interviewé le jour même du décès de ton papa, tu as utilisé cette expression-là et moi, j'étais présente parmi les panélistes et je me suis dit, ben il vient de créer ça, c'est la première fois que j'entends ce mot-là et donc, ben je suis contente que tu donnes l'origine de ce mot-là, je ne la connaissais pas. Écoute, Jean-Marie, oui, vas-y.
Je peux pas mettre ma main dans le feu à 100%, mais moi, c'est l'homme que j'ai entendu le dire pour la première fois, humanitude, Serge Marquis, qui est un médecin, conférencier, auteur. C'est lui qui a écrit « Pensouillard, le hamster ».
Oui.
Extraordinaire. Donc, humanitude, ben, ça le dit. Ça le dit, quelqu'un qui est plein d'humanitude, ben c'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Puis c'est ce qu'était papa.
Absolument. Écoute, il y a quelque chose de très particulier qui s'est produit depuis la dernière fois qu'on s'est croisés, donc à l'émission Le Monde à l'envers, le jour du décès de ton papa. C'est Marcel Lefebvre qui avait écrit donc certaines des chansons les plus connues de ton père, donc un parolier, vraiment un artisan de l'ombre, comme on dit, qui est décédé, lui, le 27 novembre, une semaine après. Et tu
à
m'as.
À la même place, hein? Tu savais
oui.
ça, hein?
Ben oui!
Ah oui, à la maison Saint-Raphaël.
C'est fou, quand même, comme drôle de clin d'œil, un petit clin d'œil d'en haut. Et tu m'as envoyé en privé une photo de Marcel et Jean. Cette image-là des deux hommes qui ont partagé tellement de choses, ça a dû être aussi une autre perte pour toi aussi, le départ de Marcel.
Ben écoute, Marcel, c'est comme tu l'as dit, c'est les plus belles chansons de papa. Il les a coécrites avec son grand complice Marcel, puis justement Les Fleurs Malades, entre autres.
Ouais. Dont on parlait.
Marie-Hélène, super, ouais. Mais tu sais, c'est dans les chansons, chante là ta chanson, toutes ces. C'est les plus beaux albums de mon père, selon moi, ont été composés, coécrits par Marcel Lefebvre et mon père. Mais juste le petit clin d'œil, regarde comment la vie est pleine de synchronicité. Ces gars-là se sont rencontrés il y a une cinquantaine d'années, au moment où papa était en train de se séparer des Géraud-là. Après ça, ils se sont retrouvés pour faire bien des spectacles, des chansons avec Avanti, Jean-Claude L'Espérance, qui était l'impresario de papa. Mais sais-tu que ces gars-là ont vraiment, mais ils ont créé leur relation d'amitié en thérapie à la maison Kerb, les deux en même temps, et la maison Kerb allait devenir quelque temps après la maison Jean Lapointe. Donc, ils se sont connus vraiment en thérapie il y a 50 ans, et 50 ans plus tard, ils meurent en même place à quelques jours d'intervalle. C'est fou raide.
Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler en cette journée anniversaire de ton papa, ton premier anniversaire sans ton père. C'est gentil d'avoir pris ces quelques minutes pour nous parler et pour inviter, bien sûr, tous les gens qui ont aimé ton père, donc 99,9% des Québécois, à aller donc à cette chapelle ardente et à t'envoyer toutes sortes de belles énergies à toi et à ta famille et à tes proches. Merci beaucoup, Jean-Marie.
Hey, t'es un amour. Je ne sais pas pourquoi, on a tout le temps des belles entrevues. Il va falloir analyser ça, mais on a tout le temps des beaux moments ensemble, puis j'apprécie. Alors, quand tu me fais une demande, là, c'est un peu tough de dire non.
Tu dis toujours oui.
ouais.
On va se pencher là-dessus. On va mettre un homme là-dessus. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Ouais. Merci, Jean-Marie.
À bientôt. Bye.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Bonjour, Steve Fortin.
Salut.
Je savais que tu avais des goûts éclectiques en musique, mais aujourd'hui, tu veux nous parler de Metallica.
Oui, je veux parler de ça parce que il vient de se passer quelque chose dans l'univers de des grands groupes, là, si on veut, là, des titans de la musique rock. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que Metallica a débordé de beaucoup son ancien créneau là, de heavy metal. Il le maintient encore, puis il est très populaire. Mais là, ce qu'il s'apprête à faire, ce groupe-là, en 2023, on repousse tout ce qui a jamais été fait dans dans cet univers-là. Et probablement même, ça le place là au rang des grands artistes là, qui font des concerts de stade. Et le magazine spécialisé Metal Hammer, qui se spécialise justement dans les nouvelles de cette scène-là, publiait un texte le 2 décembre dernier. Puis ce qu'on disait, c'était: êtes-vous prêt à dépenser beaucoup d'argent? Parce que on dépense ici aussi, on entre dans un autre créneau complètement. On n'est plus dans la tarification dynamique. Ce qu'on fait, c'est que pour une tournée qui va s'amorcer au mois d'avril de l'année prochaine, donc le 27 avril 2023, on amorce une pré-vente, mais qui va se centrer autour de quoi? Autour de expérience améliorée, donc enhanced experience et privilèges. Sortez vos bidous parce que si vous voulez faire partie de ceux qui vont se sécuriser des places pour ces expériences-là, ça va coûter au bas mot entre 414 $ et 7 200.
Ben voyons donc. Ben voyons donc.
72 Sophie, parce que c'est le nom du prochain album de Metallica, 72 saisons, 72 seasons. Donc, l'ultime package à 7 272 $. À ce prix-là, vous allez à un concert, vous êtes traité comme une rock star, on va vous accueillir, vous avez une loge, vous avez des consommations, il va y avoir un party privé après ça avec les membres du band qui vont venir et tout ça. On vous traite aux petits oignons, mais c'est plus de 7 000 $ pièce. Et pour 400 $, ben là, vous faites partie des pauvres. On va vous laisser entrer dans l'admission générale.
J'aime bien 400 $ et pauvres dans la même phrase, Steve. Quand les gens ont de la difficulté à faire leur épicerie ces temps-ci, là, non, je te taquine. Ah,
c'est incroyable, mais il faut quand même dépenser plus de 400 $ pour être admis dans l'admission générale et avoir droit avec ça donc à une casquette, par exemple, on dit un morceau de marchandise, merch, là, de marchandise du band, et puis on va aussi vous donner un drink, donc ça, c'est pour plus de 400 $. Il faut comprendre aussi que dans cet univers-là du heavy metal, la section de l'admission générale, moi, en fin de semaine, j'étais au concert à la Place Belle d'Amon Amarth, puis c'est un groupe suédois là de musique très, très populaire, c'était plein à craquer, la Place Belle débordait, mais pour être assis, ça coûte moins cher. On peut trouver des billets assis, là. La tarification dynamique fait en sorte que le jour du concert, là, ça partait pour 60 $. Mais si on voulait aller dans l'admission générale puis faire partie du mosh pit puis de ceux qui se rendent dedans, là, ben ça coûtait au bas mot 271 $, même la journée du concert. Donc, l'admission générale, c'est cher généralement, mais là, monter ça à 400 $ puis dire on donne une casquette puis un drink, ça commence à faire cher, surtout que ça va être pas mal plus gros. L'admission générale va être cette fois-ci, donc, à Montréal, c'est au Stade Olympique. Puis, dans le milieu, là, pour 1 000 $, ils ont créé, à l'intérieur du stage, de la scène, ils ont créé un espace rond, puis on va pouvoir regarder le concert, mais dans le milieu de la scène. Ça part à 1 000 $,
Ah ben pour 1000 dollars quand même, c'est pas si cher, c'est pas si cher que ça. Écoute, je trouve ça passionnant puis je trouve que c'est un très bon sujet de discussion parce que justement je le mentionnais tout à l'heure, en ce moment, ce dont on entend beaucoup parler, bien sûr à cause de cette motadine d'inflation, c'est de la difficulté de la famille moyenne à joindre les deux bouts. Écoute, les banques alimentaires sont débordées et ils voient dans les banques alimentaires des gens qu'ils ne voyaient pas avant, c'est-à-dire des gens qui avant donnaient des denrées aux banques alimentaires. Aujourd'hui, ces personnes-là vont dans les banques alimentaires pour avoir de quoi nourrir leurs enfants 3 fois par jour. Donc, on est dans cette période-là et en même temps, on voit des gens qui ont les moyens de dépenser 7 272 $ pour aller voir Metallica. Alors, je me dis, est-ce qu'on est en train de creuser l'écart entre les riches et les pauvres? Parce que manifestement, on est riche en pauvres, mais on est pauvre en riche au Québec, ça on le sait. Mais c'est qui ces gens-là au Québec qui ont les moyens de dépenser 7 000 $ pour aller acheter un billet pour Metallica? Je veux leur nom et leur adresse, je veux savoir c'est qui.
Ouais. Mais oublions pas que Metallica a lancé son premier album en 1986. À l'instar là, de groupes que je suis allé voir en fin de semaine, là, qui eux aussi roulent leur boss depuis à peu près ces années-là. Moi, j'ai vu beaucoup de têtes blanches dans un show d'heavy metal qui pourtant ferait décoiffer à peu près n'importe quel adolescent. Puis, ce qui arrive, c'est que on voit dans ces gens-là des gens qui, par exemple, sont aujourd'hui peut-être dans la jeune cinquantaine, qui sont peut-être un petit peu plus à l'aise. Et c'était ça le public cible du concert dans fin de semaine. C'est, on est dans la même génération avec Metallica. Moi, je connais des propriétaires d'entreprises, puis des gens qui sont à l'Assemblée nationale ou des gens, par exemple, qui sont dans le vestiaire du Canadien de Montréal. Puis on va les voir sortir, puis ils vont avoir un gilet de Metallica. Donc, il y a un public pour ça. Et c'est vrai qu'on est en train de creuser aussi un énorme fossé entre ceux qui, par exemple, en ce moment, découvriraient Metallica, celui qui, pour la première fois, là, j'aime ce poster-là, on le voit souvent avec Pink Floyd, par exemple. Te souviens-tu de la première fois que tu as mis tes écouteurs et que tu as entendu Dark Side of the Moon? Mais en ce moment, il y a des jeunes
tellement
qui vont écouter Master of Puppets, qui vont découvrir ce groupe-là, puis ils vont dire, mais c'est donc bien génial. Ils ne pourront pas se payer le 200$ ou le 400$ pour rentrer dans l'admission générale. Ça, c'est clair.
Ouais, mais de façon générale, il faudrait avoir une discussion à un moment donné, justement, sur juste le prix des billets, comment c'est rendu complètement débile. Et c'est une discussion qu'on a déjà eue, toi et moi, parce que, moi, j'aime beaucoup l'opéra et les gens disent tout le temps, ah, l'opéra, ben, c'est pas pour tout le monde, c'est élitiste parce que ça coûte 250$ le billet. Ben, arrêtez de nous dire que c'est une élite, là. Ça coûte plus cher d'aller voir Metallica, ça coûte plus cher d'aller voir Madonna, ça coûte plus cher d'aller voir, dans certains cas, des gens comme Stromae ou quoi ou qu'est-ce, que d'aller écouter la Traviata. Fait qu'arrêter de dire, dans le fond, c'est la musique populaire qui est rendue élitiste.
Oui, tout à fait. Et il faut quand même le dire, ces grands artistes-là qui roulent leur boss et qui font les grands concerts. Il faut dire quand même qu'il y a d'autres artistes dans d'autres styles musicaux qui essaient de trouver une façon, une voie de passage pour que certains billets soient plus accessibles. Si ton public cible, c'est les adolescents, ben j'espère que tu trouves une manière de trouver une voie de passage pour que ces gens-là puissent y aller. Parce que, après tout, c'est quoi l'expérience qu'on veut vivre? On vend des émotions, moi j'avais des frissons en fin de semaine, puis j'en connais aussi qui vont là. J'ai rencontré un gars que je connaissais, il était avec son enfant de 14 ans, son premier concert, il est là, il voit ça pour la première fois, ça coûte une beurrie, elle est à deux, s'il faut qu'on est rendu qu'il faut qu'on dépense un mois d'hypothèque pour aller voir un spectacle d'un soir, puis t'amènes ton enfant, il y a quelque chose là qui se perd, on perd un peu, mais je tiens quand même aussi à dire une chose. Dans l'univers du heavy metal, il n'y aura jamais eu une tournée qui va générer autant d'argent que celle que ça prête à faire.
Ah oui?
C'est entre 1,8 et 2,3 milliards de dollars que ça va générer. Là, on est en des ligues majeures.
Ouais.
Et on voit qu'on est rendu dans une industrie. Et je crois que les billets sont à l'image de cette industrie-là. Puis rendu là, je me demande vraiment là, qui d'autre que ça sert finalement que des intérêts financiers de ceux qui sont là, qui tiennent des guitares, mais qui, dès que c'est lâché, probablement tiennent leur ordinateur et regardent le Fortune 500 pas mal plus que leur montre.
Oh! Petite pointe ici, envoyée en même temps. Regarde. On vit dans un système capitaliste. Il y a l'offre et il y a la demande. Si eux, ils disent, ben, pour venir voir mon spectacle, ça coûte 7 272 $, puis qu'il y a des pingouins qui sont assez, ou des pigeons qui sont assez amoureux de la cause et qui sont prêts à le payer, pourquoi pas? Vous dites pourquoi? Au contraire?
Ils savent très bien. Parce que à un moment donné, là, c'est certain que ces gens-là font des études, puis ils se disent, bon, ben, OK, on va offrir ça. Mais ils le savent. Metallica roule, ils font des stats depuis les années 90. Ils le savent. Ils ont tous les chiffres. Ils ont tous les aviseurs financiers pour leur dire, savez-vous quoi? On est capable de
conseiller,
puis regardez bien, on va avoir une mare de pingouins devant nous.
De pingouins. Des pingouins, des pigeons, prêts à se faire désosser. Des dindes. En tout cas, toute l'animalerie au complet va être au spectacle de Metallica. Écoute, très, très intéressant comme réflexion. Donc, on vous rappelle que c'est au mois d'août l'année prochaine au Stade Olympique, le groupe Metallica. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve.
OK. Salut bien.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Alors, vous avez bien sûr entendu parler du film « Je vous salue, salope », ce documentaire de Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois au sujet de la cyberviolence qui vise en particulier les femmes. Et c'est rare qu'il y ait des documentaires qui aient vraiment un impact social dans le cadre de « Je vous salue, salope ». Vraiment, ce film-là a eu un impact énorme. Et hier, justement, dans le cadre d'un point de presse, les cinéastes Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois ont déposé une pétition à l'Assemblée nationale, 22 000 personnes qui l'ont signé. Et justement, Guylaine Marois est au bout de la ligne. Bonjour Guylaine.
Bonjour Sophie.
Alors, c'est ça, je le disais, un documentaire qui amène ces deux protagonistes à l'Assemblée nationale. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pétition et pourquoi c'était important d'aller la déposer à l'Assemblée nationale, Guylaine?
C'était important parce que dès qu'on a commencé à travailler sur le film Léa et moi, donc il y a déjà 7 ans.
Sept ans.
Au départ, là, la cyberviolence, on ne nommait pas encore ce mot-là. On savait qu'il y avait de la misogynie en ligne, qu'il y avait du cyberharcèlement, mais donc les choses ont beaucoup évolué depuis. À l'époque, on pensait que c'était surtout les jeunes femmes qui étaient attaquées. Il y avait eu le Gamergate, des femmes dans le domaine des jeux vidéo qui avaient été attaquées aux États-Unis. Mais là, on commençait à avoir des femmes comme toi, des femmes qui prennent la parole de publiquement se faire harceler.
Oui.
Et là, depuis 7 ans, là, c'est devenu un fléau. Et Léa et moi, on a vraiment rencontré des dizaines et des dizaines de victimes. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester passive face à ce fléau-là. Et on a eu la chance de rencontrer aussi des spécialistes, on a rencontré des juristes, on a rencontré des psychologues, et on a trouvé des pistes de solutions. Alors on s'est dit, et puis on le sent, depuis qu'on a lancé le film, là, les gens viennent voir le film d'abord en salle, et les gens sont bouleversés, les gens veulent agir. On sait qu'on a les Québécois derrière nous. Et ce qu'on demande donc dans cette pétition, c'est qu'on demande au gouvernement de M. Legault de faire une formation, en fait, de rendre obligatoire une formation pour les policiers et policières, parce que c'est là qu'il y a un problème. Quand les victimes vont se plaindre, puis quand on parle de victimes de cyberviolence, là, pour que les gens comprennent de manière concrète, c'est comme l'exemple de Laurence Graton, qui est une jeune enseignante qui est dans notre film. Alors, Laurence, il y a quelqu'un qui envoie à répétition des menaces de viol, des menaces de mort. Et qui lui dit, par exemple, je sais où t'habites, je t'ai vu avec tes habits de telle manière, à telle journée, je te suis, et puis à un moment donné, je vais t'attraper. Alors, ces femmes-là vivent dans la peur. Et quand elles vont voir les policiers, les policiers banalisent. Ils disent, c'est juste sur des réseaux sociaux, madame, donc on peut pas rien faire.
Mm-hmm.
Alors, on trouve que c'est là, et je pense que c'est pas de la mauvaise foi des policiers et des policières, c'est juste qu'ils sont pas au courant, ils sont pas formés. Alors, on exige, premièrement,
la formation
du corps.
Oui. D'accord.
Et deuxièmement...
Vas-y, et puis après, je vais réagir. Oui, non, vas-y. Oui.
Oui. Et deuxièmement, l'autre responsable, c'est les géants des médias, des plateformes numériques, qui ne retirent pas les propos haineux. Alors, c'est la deuxième demande. On demande à nos élus au Québec d'aller faire pression à Ottawa pour qu'on fasse une loi, un peu une loi comme la loi qui est en Allemagne, qui exige que les plateformes retirent à l'intérieur de 24 heures les propos haineux.
Ouais.
Sous peine d'amende substantielle.
Alors, non, je voulais juste réagir au mot banalise. Quand tu dis les policiers banalisent, je comprends d'où tu pars et je comprends d'où tu arrives après la réalisation, bien sûr, du documentaire. Je pense qu'on ne peut pas généraliser non plus, Guylaine, et je pense qu'il faut faire attention. Ce ne sont pas tous les policiers. Je te le dis, pour l'avoir vécu moi-même à deux reprises cette année, menaces de viol, menaces pas de mort, mais tu sais, on va gifler Sophie Durocher tellement fort qu'elle va se retrouver dans le coma pendant plusieurs années. Donc, dans les deux cas, plainte à la police. C'est peut-être parce que j'ai le nom que j'ai, puis peut-être parce que je suis venue avec mon chum qui est un peu connu au poste de police, mais honnêtement, je n'ai pas senti qu'on banalisait ça. Au contraire, j'ai senti que c'était plus peut-être une méconnaissance, et je voudrais juste te dire, par rapport à, mettons, il y a 5 ans, à un moment donné, j'étais aussi allée me plaindre dans un poste de police pour une autre forme de harcèlement, et les policiers m'ont dit, mais je sais même pas comment rentrer dans un compte Facebook, Madame Durocher. 5 ans plus tard, ben les policiers sont là, puis ils connaissent, ils savent comment ça fonctionne, puis ils me parlent de l'adresse IP, puis de ci, puis de ça. Donc, c'est juste le mot banalise qui m'a un peu chaviré là.
Tout à fait, et c'est vrai que donc quand on parle de banalisation, ces femmes, puis là j'en ai à toutes les fois là que je vais faire une petite conférence, puis j'en fais plusieurs par semaine, c'est toujours une personne qui me dit ben moi j'ai vécu ça. Et même l'entourage, tu sais, puis quand je dis banalise, c'est vrai qu'il faut pas faire une généralisation par rapport au corps policier. Mais je pense que d'une manière générale, oui, il y a une banalisation, et pour la raison que tu énonces, c'est-à-dire à cause de la méconnaissance.
Voilà.
C'est pas de la mauvaise foi. Je pense que les gens, évidemment, dans les postes de police, c'est des gens qui sont bienveillants, qui veulent aider les gens. Et justement notre Laurence qui est dans notre film, il est arrivé quelque chose. Son harceleur a récidivé dans les dernières semaines.
Non.
Alors qu'il l'avait laissé tranquille.
Oui. T'es pas sérieuse.
Oui. Alors qu'il l'avait laissé tranquille pendant 2 ans, il a récidivé. On s'y attendait évidemment à cause de l'apparition du film, à cause de la sortie du film. Mais Laurence donc est retournée. Et le problème, c'est que les plaintes qu'avait faites Laurence au fil des 5 dernières années, ben, puisqu'elles n'ont jamais été retenues, il faut toujours qu'elle recommence.
T'es pas sérieuse.
Raconter toute son histoire. Alors, elle a fait ça encore. Et encore une fois, une personne bienveillante, mais lui a dit, ben, madame, achetez-vous une caméra, là, puis, pour vous protéger, mais nous, on peut rien faire. Et là, ben, il y a Patrick Lagacé qui a écrit un article qui est paru ce matin dans la presse. Et là, évidemment, parce que Patrick Lagacé a appelé, un peu comme dans le cas de toi et ton conjoint, ben là, les choses ont
bougé.
Oui, elle va avoir de l'aide. Puis, pour la première fois, donc, depuis 5 ans, et même plus, elle va avoir plus de nouvelles, puis il va y avoir un suivi par rapport au harcèlement qu'elle reçoit. Donc, on peut dire banalisation, on peut dire méconnaissance, mais je pense qu'une formation des membres du corps policier, ça aiderait beaucoup.
C'est incroyable quand même que ces gens-là agissent de cette façon-là. J'aimerais te poser une question. Quand on est comme ça harcelé, quand l'exemple que tu donnes aussi de Laurence, le gars qui a récidivé, est-ce qu'on leur met le nez dans leur caca? Ce que je veux dire, est-ce qu'on fait des captures d'écran puis qu'on partage ça pour les dénoncer, ces gens-là? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Parce que moi, quand je le fais, je l'ai fait même pas plus tard que hier. Il y avait un gars qui m'a traité de grosse conne, puis tout, parce qu'il n'a pas aimé une de mes chroniques. Bon, j'ai pris une capture d'écran, j'ai mis son nom, j'ai dit c'est le champion du jour. Est-ce que ce gars-là, il va avoir un comportement où ça va être pire après, ou il va prendre son trou puis il va arrêter, d'après toi?
Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Et je pense qu'il faut agir, et tu as bien fait de le faire. Et je pense que de signaler, même si la plupart des gens, je pense que tu as dû essayer de signaler aussi à Facebook ou à Twitter.
Mais oui, la plupart, mais ils font rien.
Voilà. Mais il faut quand même continuer de le faire. Et je pense qu'il y a une conscientisation, justement, qui est en train de se produire. Puis je pense qu'on va gagner quelques-unes de ces personnes-là. On n'enrayera pas demain la haine et la violence en ligne. Ça, c'est clair, mais je pense qu'on peut mettre un frein. Puis surtout, si cette personne qui profère des menaces de mort, qui t'envoie des menaces de mort ou de viol, un jour est puni, ben, à un moment donné, ils vont comprendre, ils vont s'arrêter. Et c'est ça le problème, c'est l'impunité des agresseurs. Ouais. Alors, si cette personne était venue au journal ou à Cube Radio te rencontrer et te dire pour faire des menaces, il serait arrêté et il serait passé de, et c'est pas parce que c'est sur des plateformes que c'est moins sérieux.
C'est ça le message qui est le plus important. C'est ça le message qui est le plus important. En plus, Guylaine, c'est pas un hasard quand même. On se parle aujourd'hui, on est le 6 décembre. C'est ce jour-ci, c'est une date où tout le monde, comme société, on réfléchit sur la violence en général, la violence en particulier faite aux femmes, à cause de l'anniversaire, évidemment, de la tragédie de Polytechnique. Au moment où Marc Lépine a pris son arme et il a tué ces femmes à Polytechnique, les médias sociaux n'existaient pas. Mais cette haine, ce mépris des femmes, tu l'expliques comment toi qui as fait cet excellent documentaire où t'en as rencontré des femmes, t'as parlé à des témoins, est-ce que tu commences à comprendre, est-ce que tu commences à te l'expliquer cette haine-là?
C'est vraiment fascinant hein, parce que au fil de la recherche, j'ai rencontré des sociologues en fait qui se sont intéressés à cette question-là aussi. Et c'est tellement profondément ancré dans notre société. Puis c'est au fil de l'histoire, là, je veux dire, c'est millénaire, là, cette misogynie. Il faut quand même espérer pouvoir s'en sortir. Comment l'expliquer? Ben, c'est une question de pouvoir, je pense. C'est banalement. D'avoir le pouvoir sur des êtres. Alors, les hommes, parce qu'ils étaient plus forts physiquement aussi, ont eu le pouvoir, ont exercé du pouvoir sur les femmes. Il y a un partage plus équitable de ce pouvoir, mais ça fait pas l'affaire de tout le monde.
Voilà.
Et c'est ça. Et là, on vit comme un peu un backlash, comme on dit, une espèce de mouvement de ressac, parce que, en plus, c'est comme si le MeToo, parce que les gens disent que c'est le ressac au mouvement MeToo, mais plus que ça, il y a eu, tu sais, on a acquis de plus en plus de droits, heureusement. On a une place plus prépondérante dans la société. Il y a des femmes qui, comme toi, prennent la parole publiquement, qui s'expriment sur des enjeux politiques, et ça déplaît à certains hommes. Et le problème, c'est que cette misogynie, maintenant, ben, c'est comme si elle se répand à travers les réseaux sociaux. Il y a des gens il y a des groupes, des espèces de groupes politiques, en fait, sexistes, misogynes, antiféministes. Et maintenant, plutôt que d'être une personne seule derrière un ordinateur, ils se réunissent. Il y a des mouvements, il y a des groupes. Il y a certaines personnes qui appellent ça la manosphère, en fait. Ça a changé beaucoup de vocabulaire, là, de tous ces misogynes sexistes sur le web. Mais on sait que ça gagne du terrain, malheureusement, et il faut être vigilant.
Oui, d'où la pétition. Donc, je rappelle quand même, c'est intéressant, trois personnes quand même des groupes d'opposition, Ruba Gazal pour Québec solidaire, Joël Arsenault pour le PQ, Brigitte Garceau pour les libéraux, donc qui étaient derrière vous, derrière toi et Léa Clermont-Dion hier à l'Assemblée nationale. C'était un beau message de solidarité. Maintenant, il faut que Québec agisse et il faut qu'Ottawa agisse aussi. Donc, mettons fin à tout ça. Et surtout, mais de façon générale, juste un petit peu de civilité quand vous, un petit peu de gros bon sens là, tu sais, quand vous êtes derrière votre clavier, ne vous transformez pas en homme ou en femme de Cro-Magnon. Merci beaucoup, Guylaine. Puis écoute, vraiment,
merci, Sophie, merci pour ton appui aussi à la campagne Stop les cyberviolences.
Absolument. Puis écoute, continue à nous faire brasser la cage avec des documentaires comme celui-là. C'est extrêmement important. Et je vous salue, salope. Ça aura vraiment marqué l'année 2022. Merci beaucoup, Guylaine Marois.
Merci, Sophie.
Sophie Durocher.
Dès que les rideaux s'ouvrent, elle s'installe au micro pour interpréter sa plus grande prestation en carrière.
La semaine dernière à Cube Radio, j'ai fait une entrevue avec Xavier Dolan et on a parlé, bien sûr, de cette magnifique série diffusée sur Club Illico, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Et c'est une série où il s'est rempli de chansons qui viennent d'un petit peu partout à travers le monde, des chansons québécoises, mais des chansons étrangères aussi. Je me suis dit, tiens, ça va être intéressant de parler avec celle qui est responsable de la libération des droits musicaux pour cette production-là, mais aussi plein d'autres productions audiovisuelles. Elle s'appelle Lucie Bourgoin. Bonjour, Lucie.
Bonjour Sophie.
Est-ce qu'on peut dire que Xavier Dolan, c'est un petit peu comme Jean-Marc Vallée quand il a fait Crazy, quelqu'un qui est vraiment fou de musique et qui veut en mettre à toutes les deux minutes dans ses séries ou dans ses films?
Absolument. Xavier est quelqu'un qui adore la musique. Puis je peux le dire par expérience, il y a beaucoup de respect aussi pour la musique. Et évidemment, il en mettrait partout.
Voilà.
Non, oui, on en fait partout.
Il est comme gourmand. Alors, évidemment, vous, votre travail, Lucie, c'est, vous recevez comme ça une demande, le réalisateur dit, bon, ben moi, je voudrais avoir telle chanson, telle chanson, telle chanson. Vous, comment ça fonctionne quand vous voulez obtenir les droits, la libération des droits? Comment ça marche? Expliquez-nous, prenez-nous par la main, puis expliquez-nous comment ça fonctionne.
D'accord. Bon, Xavier ou la production, parce que Xavier choisit ses chansons souvent sur scénario. Je reçois la liste des chansons. Je fais une recherche. À qui appartiennent les droits? Qui a écrit la chanson? Qui la chante? Quelle est la compagnie disque? Qui détient les droits sur la bande maîtresse? Et évidemment, qui détient les droits sur la chanson? Une fois que je les ai identifiés, j'envoie une demande. Je leur dis, bien, voici, Xavier Dolan travaille sur une nouvelle production, une mini-série, voici le synopsis, voici la description de la scène, parce que c'est très important de dire comment la chanson va être utilisée dans la série. Et on leur dit, mais voici les droits qu'on veut. Par exemple, dans le cas de Xavier Dolan et de la série La Nuit, tous les médias, à l'exception du cinéma.
Ah, ben oui.
Parce que ça ne passera pas. Mais on veut tout. On veut l'Internet en téléchargement, bon, et tout. On veut ça pour le monde entier et on veut ça pour 20 ans.
Ouf, d'accord. Et donc,
c'est pas tout. Oui,
oui, allez-y. Voilà. Non, continuez. Je suis fascinée, je suis suspendue à vos lèvres.
Oui, mais ce qui est important de faire comprendre aux gens aussi, c'est que, par exemple, on dit, OK, je fais une description de scène et je fais une description de l'utilisation. Si on dit, par exemple, que la scène va durer 32 secondes et que la chanson joue dans le fond sonore, il y a des gens qui sont assis au bar et qui parlent, mais la chanson joue dans le fond, c'est une chose. Par contre, si, comme par exemple dans le cas de la chanson « Des croissants de soleil », elle se retrouve sur le générique de fin, c'est pas la même chose. Il y a des coûts rattaché à la façon dont on utilise une chanson.
D'accord. Alors, ce que l'essai, enfin, ce qu'on comprenait quand même entre les lignes de Xavier, c'est qu'il était frustré d'une certaine façon parce qu'il y a certaines chansons qu'il aurait aimé avoir et qu'il n'a pas pu avoir. Donc, qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans une production, il peut y avoir en effet des droits qu'on obtient et d'autres qu'on n'obtient pas?
Il y a plusieurs choses. D'abord, je vais vous dire que dans ce dossier-là, pour Xavier, j'ai eu à négocier 100 chansons.
Ah, ouch, c'est beaucoup, ça!
Oui, c'est énorme. Sauf que, évidemment, il en a pris 40. Et une des raisons pour lesquelles on coupe des scènes, on coupe une musique parce qu'on se dit, mais finalement, on pensait que ça serait bien sur cette scène-là, ça ne l'est pas. Il y a aussi, puis je la comprends, la frustration de Xavier, sauf que Xavier, il y avait tellement de choses dans la tête que je pense qu'il a mêlé des informations contradictoires, mais c'est, comme je dis, c'est pas sa faute parce que lui, le dossier de la musique, je veux cette tune-là, OK, ça marche pas, ça marche plus, j'aime pas ça sur la scène, on en met une autre, on la remplace, mais oui, effectivement, il y a eu des chansons pour lesquelles on n'a pas eu de réponse. Il y a des chansons pour lesquelles les tarifs étaient trop élevés, mais il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est que tous les éditeurs avec lesquels j'ai travaillé au Québec ont été extrêmement réceptifs et emballés. Et ils la voulaient, leur chanson, dans la scène. Il y en a, je veux pas nommer, mais je peux vous dire qu'il y a une seule compagnie avec laquelle on a dû la retordre, mais je peux vous dire, depuis 28 ans que je fais ce travail-là à temps plein, tous les éditeurs et les maisons de disques québécoises avec lesquelles j'ai travaillé, c'est rapide, c'est efficace, ils sont emballés, ils sont contents qu'on mette leurs chansons dans les séries parce qu'on a beaucoup mis de chansons étrangères,
ben oui,
des États-Unis, britanniques, françaises. Mais là, Xavier, il voulait mettre des chansons québécoises. Oui, il y a des chansons qu'on n'a pas pu avoir parce qu'on n'a pas eu de réponse, mais c'est toujours les mêmes individus.
Ah.
Ce n'est pas... Puis je
on ne les nommera pas. On les nommera pas, non. Mais on peut leur dire non. Ce qu'on pense d'eux. Oui. C'est des vilains, puis vous nous avez privé de chansons, puis on ne vous aime pas. Bon, les vilains qui nous écoutent, là...
Bruno Pelletier, parce qu'il a parlé de Bruno Pelletier, d'Isabelle Boulay, puis de Ginette Renaud. Ces gens-là, là, ont été extrêmement efficaces. Ils m'ont répondu dans les 24 heures, oui, Lucie, puis on a discuté d'un tarif, puis c'était raisonnable, puis ça a été approuvé par la production. Mais effectivement, il y en a d'autres que ça a été OK, personne ne nous répond. Puis quand on propose un tarif, on dit non, tu rajoutes un zéro. C'est ça qui est frustrant, mais en même temps, Xavier, il a demandé plein de chansons. C'était bien
je comprends.
Il n'allait pas toutes les prendre.
D'accord, je comprends. Et c'est important.
Je comprends ta frustration aussi.
Oui, ben, on serait frustré aussi, en effet, à sa place. Aussi. Mais c'est important d'apporter donc ces précisions-là. Et vous le faites très bien, Lucie, les nuances. Je l'apprécie parce qu'en plus, vous nous faites un peu le béaba, là. C'est Libération des droits 101, j'adore ça. Alors, est-ce que c'est possible aussi que, dans certains cas, si vous dites, par exemple, vous contactez quelqu'un qui a fait une chanson, puis vous lui dites, bon, ben, c'est un réalisateur dont personne n'a jamais entendu parler, qui n'a pas gagné de prix à Cannes, qui n'a pas été en lice pour aucun prix, ben là, il ne demandera pas très cher. Mais si vous dites, c'est pour Xavier Dolan, il est tellement connu, c'est possible qu'il y ait des gens qui soient un petit peu tentés aussi de rajouter une coupe de zéro, en effet?
Non? Non, c'est pas là que ça se passe. C'est pas
d'accord.
Là que ça se passe. Ce qui arrive, c'est que quand on s'appelle Xavier Dolan, on peut demander les droits pour le monde pendant 20 ans parce que la production va se vendre à l'étranger partout
c'est
dans
ça.
Le monde. Si on est un réalisateur, ben oui,
ouais.
Si on est un réalisateur qui commence, moi j'en ai beaucoup derrière la cravate. Je n'ai pas travaillé qu'avec des géants comme Jean-Marc Vallée, Robert Lepage ou Xavier Dolan. J'ai travaillé avec des réalisateurs qui commençaient, mais c'est pas tellement le nom du réalisateur comme les droits dont on a besoin.
Ça je comprends.
Si on a besoin d'une œuvre pour une scène qui dure une minute, pour deux diffusions sur Télé-Québec sur 3 ans, c'est pas le même prix que tous les médias dans le monde, sauf le cinéma, pendant 20 ans. C'est là la différence. C'est-à-dire, c'est sûr que Xavier, il va pas produire une série qui va passer 2 fois sur Radio-Canada sur 5 ans.
Mais non.
Vous comprenez? Donc, c'est là que, c'est comme Jean-Marc Vallée, on voulait tous les médias. Crazy, on n'a pas fait ça. Parce qu'on n'avait pas les moyens de demander les États-Unis. Pour Crazy, on a demandé le monde excluant les États-Unis pour 10 ans. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas, ça n'existait pas. Donc, mais, puis il n'était pas si connu que ça à l'époque à l'étranger.
C'est vrai.
C'est par le temps. Quand il a fait Dallas Buyers Club, sur lequel j'ai travaillé, on avait besoin des droits mondiaux, puis on avait des gros noms, on avait des acteurs connus.
C'est sûr.
Donc, c'est sûr que... Mais c'est parce qu'on demande tous les médias dans le monde à perpétuité ou pour 20 ans. Donc,
c'est vrai. Ça fait une grande différence.
Une grosse nuance.
Et ce qui fait, bon, la richesse, évidemment, de la série telle qu'on la connaît, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, qui est vraiment absolument extraordinaire, c'est que, dans le fond, c'est très particulier parce que Xavier se sert de la musique pour nous passer de l'information. Et comme dans ce cas-ci, c'est un mystère, parce qu'il y a une révélation dans la dernière, dans le dernier épisode, des fois même des chansons pendant la série nous amènent sur une piste. On dit, ah tiens, il y a telle chanson qui joue, ça doit être un tel qui a fait telle affaire. Puis finalement, on se rend compte, bon... Voilà. Donc, il réalise avec la musique. La musique est quasiment un acteur ou un comédien dans son film, là, dans sa série.
C'est un personnage en soi.
Voilà.
C'est que, comme je disais au début, c'est Xavier, il écrit. Il écrit un scénario. Et puis dans sa tête de créateur, il dit, ah tiens, cette chanson-là, parce qu'il connaît beaucoup de musique, Xavier. Ah, oh, cette scène-là, ça serait bien cette chanson-là. Ah, oh, telle scène. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on arrive au tournage, qu'on fait un montage, tout d'un coup, on dit,
ça marche plus.
Non, c'est ça, ça sonne pas comme j'aurais pensé, ça passe pas le message que je voulais. C'est un travail de plus de 2 ans pour moi seulement.
Incroyable. Ben, Lucie
a travaillé pendant des années là-dessus. Donc,
oui. Alors, écoutez, Lucie, j'adore ça parce qu'on a pu donc préciser un certain nombre de choses, apporter des nuances et aussi faire une incursion brève mais pertinente dans votre métier de responsable de libération des droits musicaux pour les productions audiovisuelles. Merci beaucoup. Puis j'aimerais ça vous reparler à un autre moment donné aussi de différents dossiers parce que c'est vraiment absolument fascinant. Ça intéresse tout le monde, ces questions-là. Merci beaucoup, Lucie Bourgoin.
N'hésitez pas. Merci. Au revoir.
Merci. Je veux remercier Marianne Bessette à la recherche. Je veux remercier aussi Joanie Henry à la mise en onde, à la réalisation. Et ben, je veux vous remercier, vous, d'avoir choisi Cube. À très bientôt.